Donc, nous sommes le 2 novembre 2014 à la Villa Saint-Martin, troisième et dernière journée de cette merveilleuse retraite. Ma conscience, un chant. Je n'ai pas reçu beaucoup de questions, alors j'imagine que ça doit être, tout doit être clair et que. Et que vous avez, si vous en avez eu, que ça a été bien répondu dans les familles. J'ai lu les rapports des familles et chaque famille semblait avoir du fun, un peu de frottage. Non, c'est bien. Comme il y a beaucoup de nouveaux amis ici, ce que je souhaite pouvoir recevoir, c'est d'avoir vos commentaires, vos feedbacks sur ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, pour nous permettre de pouvoir mieux répondre à vos besoins. Pour ceux qui me connaissent déjà, étant donné que je traverse une période très changeante, mouvante, j'apprécierais aussi beaucoup recevoir votre éclairage. Sur votre perception des changements que vous pouvez avoir observés en moi. Ça m'aidera aussi beaucoup. Merci. Il y a une des questions qui a été posée, c'était énumérer les 37 choses. Alors, attachez votre tuque, vos ceintures, on va courir. Donc, tout le monde a su ça. On a appris hier les quatre établissements de la pleine conscience. Le corps, les sensations. Ok, conscience ou esprit. Les quatre établissements de la pleine conscience ont fait l'objet de toute une année d'études et on va reprendre l'année prochaine. C'est la base de toutes les écoles de méditation et elle commence par la pratique de la respiration consciente. Alors, si nous pouvons pratiquer l'arrêt avec la pratique de la respiration consciente, nous pratiquons les quatre établissements de la pleine conscience. Alors tout le reste, c'est des guides, c'est des aides, c'est la compassion du Bouddha pour nous tenir par la main, pour nous guider. Mais tout revient à cette pratique de la respiration. Parce que lorsque nous pratiquons la respiration, nous nous arrêtons. Nous nous arrêtons et nous pratiquons la pratique du corps. Nous savons où nous sommes, nous savons ce qui se passe, nous savons exactement. Alors lorsque le Bouddha dit, lorsque Thay nous enseigne marcher, respirer, etc., c'est la même pratique que la pratique de l'arrêt et la pratique de l'observation. Vous avez appris avec les méditations guidées la conscience. Mon chant. Je vais essayer de ramener un peu la méditation que vous et les lectures qu'on a faites sur la conscience. Lorsqu'on parle de conscience, on parle des. J'hésite un peu parce que c'est toujours une question de vocabulaire. Alors je vais utiliser le mot conscience entre guillemets. Lorsqu'on parle de conscience dans l'enseignement de l'Abhidharma, dans l'enseignement des manifestations de l'esprit, il y a 8 formes de conscience. Nous avons les 5 organes des sens, nos yeux, les 5 organes des sens. Et les 5 organes des sens sont là. Et il y a le monde extérieur. Et les organes, chaque organe les yeux perçoivent un objet. Il y a l'organe, il y a l'objet, et il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et c'est la conscience sensorielle, les cinq consciences sensorielles. Donc on a les cinq consciences, on a les cinq organes et on a les cinq objets, ce qui fait un total de 5 plus 5 plus 5 égale 15. Le sixième, qui est l'esprit. Donc, de la même façon qu'il y a un œil, un objet, une conscience visuelle, il y a l'esprit, il y a les objets de l'esprit, et il y a la conscience qui fait ce lien. Ça va jusqu'à date. Ce qui est important de se rappeler de cette chose-là, c'est que ça prend ces trois éléments pour que quoi que ce soit puisse être. Si on est aveugle, l'objet est là, on ne peut rien voir. Alors ça prend les trois composantes pour que ça marche. Et si on prend ces trois choses-là, ça nous permet de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Alors, gardez cette image-là en tête. Hier, Denise a posé une question très importante. Lorsqu'on pratique une chose, comment est-ce qu'on peut réaliser toutes les autres choses? Alors, la compréhension de ces trois choses-là peut aussi nous éclairer sur beaucoup, beaucoup de questions et de mystères. Donc avec les cinq premiers et le dernier, ça fait 6, 6 fois 3, ça fait 18. Et les 18 sont les 18 domaines dont vous avez entendu la récitation ce matin lorsque nous avons chanté ensemble le cœur de la compréhension parfaite. Alors les 18 éléments, les 18 domaines ensemble constituent tout ce qui peut être, tout ce qui est et tout ce qui peut être. Il n'y a rien qui peut sortir de ces 18 domaines. Êtes-vous d'accord? Les cinq organes sensoriels, les cinq consciences et les cinq objets de ces cinq organes, avec l'esprit, la conscience et les objets de l'esprit, il n'y a rien qui peut exister en dehors de ces 18 domaines. N'est-ce pas? Alors, ces triangles se répètent 6 fois, et ce qui donne le 18 qui constitue les 18 domaines qui constituent tout ce qui peut être. L'univers, ou je ne sais pas comment on l'appelle, mais on peut l'appeler Dieu, c'est le tout. Et puis, le tout de ces 18 sur ce même principe où cette chose-là ne peut être si un de ces éléments manque. Je vous vois parce que je suis ici et que vous êtes là. Mais s'il n'y a pas cette conscience visuelle, je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous sentir, je ne peux pas être avec vous. Tout disparaît. Et c'est de la même façon que lorsque je vous ai parlé des miracles qui sont en train de se passer. Et ça fait partie de ces 18 domaines. Et ces 18 domaines ne peuvent pas être si nous n'y sommes pas. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous, pour chacun de nous, pour nous-mêmes, d'être là. Parce que sinon, rien ne peut exister. C'est un point très important. J'essaie de l'expliquer du mieux que je peux et je pense que je ne le fais pas très bien. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas les paroles ni ce que vous pouvez comprendre. Souvenez-vous de cette image, de ce tripode, trépied. Un trépied ne peut pas tenir avec deux pieds. Ça prend les trois pieds. Et l'un des pieds, c'est nous. Et si nous ne sommes pas là, il n'y a rien qui peut exister. Et c'est la même chose pour tous les miracles et c'est la même chose pour tous nos malheurs. Là, on a parlé des cinq consciences, des organes sensoriels et on a parlé aussi de la conscience esprit. Il y a les cinq organes des sens, puis il y a le corps et puis il y a l'esprit. L'esprit et les objets de l'esprit et la conscience. Et c'est cette conscience-là qui fait l'objet des 50 versets, de l'étude des 50 versets. Et cette conscience est composée de trois niveaux de conscience. Alors, il y a les cinq premières, il y a la sixième qui est la conscience mentale. La septième qui est le manas. Et la huitième qui est l'alaya. Donc on parle des 18 domaines et on parle des 8 consciences. Les consciences sensorielles sont faciles à comprendre. Parce que c'est assez direct. Mais ce qu'il faut se souvenir toujours, c'est de ce triangle, de ce trépied. Parce que nous sommes à la base de tout ça. Et je me répète, je pense que c'est la cinquième fois. Si nous ne sommes pas là, rien de cela n'est possible. Lorsque nous avons pris comme titre de cette retraite, comme thème de cette retraite, ma conscience, un jardin. On parle de la conscience de Tréfonds, qui est la huitième conscience. Et dans les lectures, vous avez entendu, appris, que la conscience est un champ, la conscience est une terre, la conscience contient et renferme toutes les graines. Toutes les semences. Et lorsqu'on dit qu'elle contient toutes les semences, on dit qu'elle contient les graines d'éveil, on dit qu'elle contient les graines de bodhité, on dit qu'elle contient les graines de compassion, on dit qu'elle contient les graines d'amour. Il n'y a rien qui n'existe pas dans notre conscience de Tréfonds. Tout est là et nous avons dans notre conscience de Tréfonds toutes les graines et les semences possibles. Si nous prenons l'exemple, ce serait quoi une graine que vous pouvez reconnaître ou que vous pouvez identifier dans votre conscience de Tréfonds? La joie, la colère, la peur, la jalousie, la générosité, la compassion. Toutes ces formations existent comme formation ou comme graine individuelle dans notre conscience de Tréfonds. Et ces graines, se manifeste lorsque les conditions leur sont favorables. Nous parlons de compassion comme graine et nous parlons de colère comme graine. Dépendamment des conditions dans lesquelles nous nous mettons, dépendant de notre environnement, dépendant de notre humeur, dépendant de notre état, certaines graines vont soudain se manifester. Alors que d'autres ne peuvent pas. Et lorsque nous sommes dans un certain état, parce que certaines graines se sont manifestées, avec la pratique de la pleine conscience et avec cet enseignement, nous pouvons réaliser, nous pouvons comprendre, nous pouvons voir pourquoi nous sommes dans cet état. Et lorsque nous avons parlé des quatre nobles vérités, nous avons parlé de la souffrance. Alors la souffrance, c'est aussi une manifestation de l'esprit. Et c'est aussi une graine de souffrance qui a été arrosée et qui a été favorisée pour pouvoir se manifester comme une souffrance. La première noble vérité, cette souffrance a été à l'origine une graine dans notre conscience de tréfonds. Quelle que soit la souffrance dont nous parlons, ça a commencé par une graine. Et il ne faut pas se leurrer lorsque nous voyons la souffrance des autres et penser qu'on en est exempt. Les personnes qui souffrent ou les personnes qui sont devenues comme elles sont l'ont été parce que les graines qu'elles portaient en elles ont été exposées à des conditions qui ont fait que ces graines-là ont été favorisées, ont fait d'autres bébés et d'autres petites graines et en a fait une forêt. Et c'est pour ça que ceux qui commencent par une graine peuvent devenir des moutons, peuvent devenir des champs, peuvent devenir des forêts, peuvent devenir des... Comment ça s'appelle? Des broussailles inextricables. Et on parle d'internal formation. On parle de knots, on parle de nœuds. Alors ceux qui commencent très simplement comme une graine, à force d'être répétés, à force d'être oppressés, à force d'être réprimés, à force d'être, se transforment en mouton. Et c'est beaucoup plus difficile à traiter qu'une graine. Mais pour revenir à la conscience de tréfonds. Nous regardons quelqu'un, nous regardons sa vie, nous regardons sa qualité de vie. Et nous pouvons comprendre que la qualité de vie d'une personne dépend des graines qu'elle porte et des graines qu'elle a favorisées ou des graines que son environnement a rendues possibles ou a favoriser ou à encourager ou à nourrir. Mon maître a écrit un poème. Appelez-moi par mes vrais noms. Et c'est un fruit de sa compassion et de sa compréhension. Ce qui a commencé par une souffrance, c'est l'histoire d'une jeune fille sur un bateau de réfugiés. Qui a été agressée, violée, piratée, et qui s'est suicidée après son agression. Lorsque le bateau est arrivé à port et que l'histoire a été racontée à mon maître, il était très fâché. Et c'est très facile pour nous de toujours prendre part et de prendre la partie de la jeune fille qui a été oppressée contre et être contre le pirate qui l'a agressée. Et Thaï, étant un humain, a réagi comme cela. Oh! Mais l'enseignement de Thay qu'on a pu entendre dans la transmission des 5 entraînements est très clair. Lorsqu'on est pris par la colère, on ne fait rien. On arrête, on pratique la marche méditative et pour se calmer. Et Thay est ce genre de maître qui fait tout ce qu'il dit. Ou bien il enseigne ce qu'il fait. Et c'est ça qu'il a fait. Il s'est assis en méditation, il a respiré, il a pratiqué la marche méditative. Peu à peu, sa colère s'est calmée. Et c'est là qu'il a pu voir et qu'il a pu comprendre que le pirate n'est pas aussi responsable que sa première idée lui a suggéré, mais que le monde entier porte la responsabilité de l'apparition ou bien de la manifestation de ce pirate. Parce que en nous, en vous, en moi, en mon maître, dans notre conscience de tréfonds, individuelle et collective, nous avons tous cette graine de piraterie en nous. Et Thay a été très humble dans sa réalisation. Il a dit, si j'étais né dans les mêmes conditions que ce pirate, si j'étais né de parents alcooliques, sans moyens, qui ne savaient rien d'autre que de rentrer sous et me battre quand j'étais petit, et que je devais fuir de la maison chaque fois que je le voyais apparaître, et qu'il rentrait à chaque fois qu'il allait dévaliser la maison, qu'il allait prendre tout ce qu'il pouvait pour le vendre, pour avoir son verre d'alcool. Et que, rendu à 14 ans, 15 ans, quelqu'un m'aurait invité à aller intercepter un bateau de réfugiés pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent que je peux imaginer pouvoir faire dans toute ma vie. Je le ferai. Je l'aurai fait. Et parce que je suis un jeune homme, parce que j'ai 15 ans, j'ai 14 ans, j'ai une énergie sexuelle qui bouillonne en moi. Je vais sur ce bateau et je vois ces jeunes filles complètement vulnérables et inoffensives et vulnérables. Et que je sais que je n'ai aucun moyen de pouvoir l'avoir ou de la séduire. Ou bien je l'aurais aussi violentée et agressée sexuellement. Alors, pourquoi ces crimes arrivent et existent? Par la façon même dont nous vivons. Cette inéquité financière et économique, le fait que ces enfants n'ont rien à manger, etc. Ils n'ont rien à manger ou bien ils sont dans ces conditions, peut-être à cause de la façon dont nous menons notre vie. Alors donc nous partageons ou bien nous sommes encore plus responsables de ce qui est arrivé que cette personne-là. Et donc, appelez-moi par mes vrais noms, c'est le résumé de cet enseignement sur la 8e conscience, que nous avons en nous toutes les graines, que ce soit les graines de bonté, que ce soit les graines de haine, que ce soit les graines d'agression, nous avons tout en nous. Et si les mauvaises graines n'ont pas encore eu la chance de se manifester, nous devons nous compter chanceux. Et nous ne sommes pas mieux que quiconque d'autre. Nous avons été plus chanceux parce que nous avons été dans des conditions qui ont favorisé nos meilleures graines à se manifester et nos mauvaises graines à ne pas être touchées. Mais ne nous leurrons pas parce qu'elles sont là. Et si nous ne sommes pas, faisons pas attention et que nous laissons ces graines s'arroser ou s'alimenter, elles vont se manifester. Alors, lorsque nous comprenons ce phénomène, nous pouvons aussi l'appliquer dans notre sangha. Nous pouvons aussi l'appliquer dans notre famille. Et mon maître a donné beaucoup de leçons et de un exemple, par exemple, il dit, est-ce que okay, vous êtes un jardinier et puis vous plantez des tomates? Non. L'histoire, c'était une laitue, un plant de laitue. Et si la laitue ne pousse pas verte et belle comme votre voisin, vous n'allez pas engueuler la... Le plan de salade, vas-tu te pousser? Mais vous allez retourner en vous, puis vous allez vous demander, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que lui, sa tomate, elle pousse bien, puis pourquoi mon plan ne pousse pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que j'ai trop arrosé? Est-ce que je n'ai pas assez arrosé? Etc. Et c'est cela, le travail de jardinage. Et de la même façon, que Thay s'occupe de ses plants de laitue et nous encourage à cultiver notre champ, notre conscience. Et la pratique qui s'appelle, ça s'appelle les quatre diligences ou l'arrosage sélectif. Si une graine saine est en train de se manifester, gardons-la, entretenons-la, gardons-la comme invitée dans notre conscience mentale. Si on est bien dans une retraite, restons dans la retraite. Et tout le temps où on est dans une retraite, et puis qu'on dit qu'on est bien, on est en train d'arroser, on est en train d'alimenter, on est en train de fortifier, on est en train d'encourager, on est en train de cultiver ce bien-être, cette non-souffrance. Et on est en train de manifester les quatre nobles vérités. Nous pratiquons une des 37 et nous enlevons les causes de la souffrance parce que nous ne sommes pas là dans la souffrance. Nous pratiquons les quatre diligences et nous pratiquons les quatre établissements de la pleine conscience. Et qu'est-ce qui se manifeste? La pleine conscience. Et avec la pleine conscience, il n'y a pas de souffrance parce que c'est l'instant présent, parce que c'est la compassion, parce que c'est l'amour. Parce que c'est la sangha, parce que, etc. Et tout le temps où nous sommes dans une retraite et que nous ne sommes pas pris dans le passé et que nous ne sommes pas pris dans le futur, qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais le revoir? Et que nous sommes ici et maintenant et que nous baignons dans cette ambiance et dans cette atmosphère. Nous pratiquons où nous réalisons l'enseignement des quatre nobles vérités. La souffrance qui est là, la souffrance qui était là, ne peut être parce que nous sommes dans la pratique. Et nous avons, avec la pratique, enlevé les causes de cette souffrance. Et c'est pour ça que le bonheur, c'est maintenant, ici. Lorsque une graine saine ne se manifeste pas, nous pouvons, par la pratique de la pleine conscience, aller la chercher et la faire manifester. Nous savons que lorsque nous nous mettons dans une soirée avec Gilles et que Gilles invite la cloche, et nous guide en méditation. Il touche à nos meilleures graines. Nos graines de pleine conscience et nos graines de compréhension et nos graines d'amour et de compassion. Alors lorsque nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes, nous nous mettons dans des environnements qui sont favorables et nous permettent de pouvoir le faire. Alors nous vous invitons à venir participer à nos soirées les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, à nos journées de pleine conscience les samedis et les dimanches et à nos retraites. Faites-le jusqu'à ce que vous puissiez le faire vous-même. Et c'est pour ça que là, je vous ai invité à rester dans la retraite, sachant très bien que vous devrez partir à 3 heures. Partir d'ici à 3 heures ne veut pas dire que vous devez quitter la retraite. Parce que la retraite est dans votre conscience de tréfonds. Tout ce que nous avons fait, c'est vous donner un environnement qui vous permet de pouvoir cultiver cette chose dans votre tréfonds. Alors, en tout temps, n'importe où, vous pouvez toujours pratiquer la deuxième diligence, retourner dans la conscience de tréfonds, revenir dans la retraite et manifester cette retraite partout où vous êtes. Les élèves de mes maîtres, de mon maître, pratiquent dans des prisons. Ils sont assis, puis ils sourient. Et puis ils sont encore plus présents et à l'aise ici et maintenant que nous pouvons l'être sur notre coussin. Parce qu'ils savent comment rentrer dans leur conscience de tréfonds, toucher les plus bonnes graines de fermeté, de stabilité qu'ils ont en eux. Et c'est pour ça que lorsque nous chantons ensemble, j'inspire et je m'éclos comme une fleur. Pourquoi je peux le faire ici? Pourquoi je ne pourrais pas le faire dans un cachot? Il y a du monde qui sont capables de le faire. 2 heures du matin, les gardes sont endormis. Les lumières sont fermées. Ils s'assoient en méditation. Ils s'éclosent comme une fleur. Ils sont torturés, solides comme la montagne. Aucun problème. Comment ils peuvent le faire? C'est parce qu'ils ont pratiqué les 4 diligences. Parce qu'ils ont renforcé les graines de fraîcheur, de solidité, de fermeté, d'espace, de légèreté dans leur conscience de tréfonds. Et lorsque ces graines-là sont bien fortes et présentes, c'est très facile pour eux de pouvoir retourner, les toucher pour qu'elles se manifestent. N'importe quel, où qu'il soit, dans n'importe quelle condition. Nous ne sommes pas là. Je ne suis pas là. C'est pour ça que nous devons nous donner des conditions, des environnements qui nous permettent de pouvoir favoriser les graines saines que nous avons en nous. Nous faisons le travail de cultivation afin qu'elles soient fortes. Et lorsqu'elles sont assez fortes, nous pouvons les manifester indépendamment de l'environnement. Les 4 diligences. Ça va pour la conscience de tréfonds. Pendant que j'ai parlé de la conscience de tréfonds et des 4 diligences, mine de rien, j'ai aussi parlé des 5 énergies et des 5 powers. Les 5 pouvoirs qui font partie de ces 37. La première énergie qu'on a en nous et que si nous travaillons, qui vont nous donner le pouvoir. Je vais utiliser un mot qui va vous faire dresser les cheveux, ceux qui en ont. La foi. Non, je sais, il y a des mots qui choquent. Au Canada, lorsqu'on parle de foi, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Cette foi dont on parle, c'est cette confiance, c'est cette croyance que nous pouvons avoir dans notre propre capacité de pouvoir pratiquer. Si nous pouvons avoir confiance que nous pouvons aussi faire cela, c'est-à-dire pratiquer la respiration. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne peut pas? Réjouissez-vous-en, parce que ça pourrait aussi ne plus arriver. Souvenez-vous, la permanence. Nous pouvons encore respirer et nous asseoir. Qu'avons-nous besoin de plus pour pouvoir pratiquer les quatre nobles vérités? Nous l'avons déjà, c'est une énergie que nous avons en nous. C'est cette croyance, c'est cette confiance que nous pouvons avoir en nous, que nous pouvons croire que nous avons la capacité de pouvoir pratiquer la respiration consciente, de pouvoir nous calmer, de pouvoir nous arrêter. Et qu'une fois que nous pouvons nous calmer et nous arrêter, que nous pourrons réaliser tous les autres miracles dont Chen-Hui nous parle. Le miracle de la pleine conscience, le miracle de l'instant présent, le miracle du contact avec tous les miracles, de tout ce qui est merveilleux, guérissant, rafraîchissant, etc. de l'instant présent. Et une fois qu'on retourne et qu'on identifie ou qu'on regarde à cette capacité et à cette foi que nous pouvons avoir en nous, ça va nous donner l'énergie pour pratiquer. Parce que si nous ne le croyons pas, nous ne le ferons jamais. Il faut commencer par avoir cette croyance et cette foi en nous. Une fois qu'on sait, une fois qu'on a cette croyance que oui, les nobles vérités ont du sens, que oui, nous aussi nous pouvons le faire, ce sont les conditions essentielles du début pour pouvoir faire le premier pas et le faire. Et c'est pour ça que la première énergie, cette première énergie, cette foi, est le début d'un cheminement. Et le cheminement doit se faire de façon diligente. Et c'est la deuxième énergie, diligence. Il faut le faire. Et le refaire, et le refaire, et encore. Et ce que je nous le souhaite, c'est que lorsque nous avons commencé cette pratique de pleine conscience, que nous pouvons en goûter les fruits. Et les fruits de la pratique de la pleine conscience sont instantanés. Peut-être avec un peu de retard, deux respirations ou trois. Mais les premiers fruits de la pratique peuvent être manifestés et peuvent être goûtés et peuvent être sentis, palpables. C'est quoi le mot qui est comme la récompense qui vient? Les bénéfices, on peut les goûter tout de suite. Et là, je parle du cycle d'addiction. Ça commence comme ça, n'est-ce pas? Vous voulez essayer quelque chose. Vous l'essayez, ça vous procure du plaisir, ça vous procure un bien-être. Et il y a neural pathway. Ben, ça crée des... C'est quoi le... Oui, mais avant d'arriver là, ça commence par des réactions chimiques, l'endorphine ou des opiates ou bien des trucs comme ça. Et il y a un neural pathway qui va se créer. Dopamine, etc. Donc, alors, de la même façon que la cigarette, l'alcool, la dope ou whatever, les habitudes que nous, qui nous ont accrochées parce que ça nous a procuré du plaisir, c'est le même phénomène qui se passe avec cette pratique. Et de la même façon que les athlètes ne peuvent plus ne plus faire leur exercice ou bien leur... De la même façon, cette pratique peut devenir notre alimentation quotidienne dont on ne peut plus se passer. Donc c'est la confiance, la diligence. Les trois prochains sont Smarti, Samadhi, Prajna, the three learnings. Et qui représente aussi le motto, le logo de pratique du village des pruniers. Alors, lorsque vous allez dans n'importe quel temple et que vous voyez cette pagode avec un seul poteau au milieu qui le soutient, et des trois lettres, Smriti, Samadhi, Prajna, vous savez que c'est l'école de Tenugan. La pleine conscience, la concentration et la vision profonde. C'est quoi cette fameuse vision profonde? Cette compréhension qui est le fruit et l'aboutissement d'une pratique, de la pratique qui commence par notre croyance, notre confiance. Que cet enseignement peut nous sauver, que cet enseignement peut nous guérir, que cette pratique est ce que nous avons besoin. Pas le croire parce que quelqu'un le dit, le croire parce qu'on en a goûté les bénéfices, mais parce que ces bénéfices-là sont impermanents. Nous devrons retourner pour pouvoir le refaire encore. Et c'est pour ça que la diligence est importante. Il faut le faire. Et lorsque nous le faisons et que nous continuons cette pratique des trois, the three learnings, nous allons aboutir à la compréhension parfaite. Une compréhension qui va s'auto-alimenter. L'une des premières compréhensions, c'est peut-être cette première qui nous a amené ici. Je souffre et je sais que je souffre. Je dois trouver une façon de faire pour pouvoir m'en sortir. C'est une première réalisation. C'est une réalisation qui nous a fait arriver ici et qui nous fait pratiquer. Nous pratiquons, ça renforce notre croyance et nous continuons de pratiquer. Et notre conscience s'améliore, notre pleine conscience, notre capacité de pouvoir nous concentrer s'améliore et grandit. Et nous ne sommes plus distraits, nous ne sommes plus tiraillés, nous ne sommes plus pris par toutes sortes de choses et nous pouvons regarder les choses pour pouvoir les voir comme elles sont. Et ne nous leurrons pas. Les choses vont s'éclaircir, mais ça prend du temps. Ça prend une continuité, ça prend une diligence de pratique. Et lorsque les choses vont se tasser, l'exemple que mon maître donne, c'est l'exemple d'un verre d'eau boueuse. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez de la boue, puis vous brassez. l'eau est grise. Vous la laissez là, elle va se clarifier peu à peu. Au bout d'une semaine, toute la boue s'est déposée en fond et l'eau est claire. Et de la même façon, lorsque nous sommes assis en méditation, lorsque nous pratiquons l'arrêt, lorsque nous pratiquons la méditation assise marchée, ça permet de pouvoir nous arrêter et de laisser cette boue se déposer. Et cette boue, c'est tout ce qui nous empêche de pouvoir voir la réalité telle qu'elle est, parce qu'elle obscure la vue. Alors cette vision profonde ou cette vision, cette réalisation, elle est déjà là. Mais c'est juste parce que nous sommes obscurés, nous sommes... Cette compréhension, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est infini. L'eau n'est jamais absolument claire. Il y aura toujours un peu de dépôt, un peu de quelque chose, etc. Alors, c'est cette... Robert Béliveau n'est pas ici. Mais lorsqu'il est ici et qu'on parle de pleine conscience, Robert dit, ça c'est trop pour moi. Moi, je préfère la petite conscience. Et, ou bien un peu plus conscient. Et de la même façon, notre intelligence, notre compréhension, toutes ces choses-là, c'est vraiment de la même façon qu'on parle de cultivation, c'est graduel. Et c'est pour ça que la deuxième énergie, l'énergie de diligence, est très importante. Et c'est pour ça que notre maître nous enseigne à pratiquer modérément. Mais constamment, ne jamais arrêter de pratiquer, mais sans jamais se forcer non plus. Alors la définition de diligence, c'est un effort modéré, constant. Alors si quelqu'un vous demande, qu'est-ce qu'ils font là-bas, à la retraite de pleine conscience de l'IPCAM, vous dites, ils font rien. Ils mangent, ils boivent, ils marchent, ils parlent un peu trop, non. Ils rient des fois. Ils font rien. Et puis là, ils disent, comment ça, ils font rien? Mais pourquoi payer 200-300 dollars pour une fin de semaine à rien faire? En tout cas, je ne sais pas quelle réponse vous pourrez leur donner. L'une des réponses que vous pourrez peut-être leur donner, c'est la même que celle que le Bouddha a donnée. Ils marchent, mais ils savent qu'ils marchent. Ils sont assis, et ils savent qu'ils sont assis. Ils sont debout, et ils savent qu'ils sont debout. Ils mangent, et ils savent ce qu'ils mangent. Et c'est ça la différence. Ou peut-être, pour mieux les impressionner, vous pouvez leur dire... Tu sais, j'ai eu une fin de semaine intense. On a pratiqué 24 heures par jour. Qu'est-ce que vous avez pratiqué? Marcher, vous tenir debout, être assis, allongé, dans la pleine conscience, 24 heures par jour. Je pense que ça, c'est mieux. Ça, yes. C'est paradoxal. Et d'habitude, je commence mes retraites, ben, je l'ai commencé ici encore. N'attendez pas à demain. La mort frappe inopinément et on ne peut pas négocier avec la mort. On a peut-être moins de temps que vous pensez. Et lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps, lorsqu'on n'a plus de temps, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Et qu'est-ce qui est le plus important dans cet instant? C'est de le vivre pleinement. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore là. Et être dans l'instant. Et le plus qu'on peut être dans l'instant, et le mieux on pourra comprendre et voir ce qui est plus important que ce qui l'est moins. Et j'avais aussi, au début de cette retraite, donné l'exemple. Quel exemple j'ai pris? Ce que nous pouvons considérer comme important, ce que nous pouvons considérer comme des conditions de notre bonheur, sont les obstacles à notre bonheur et à notre bien-être. Et ça fait partie de la compréhension. Et la compréhension ne peut pas s'acquérir par une lecture ou bien par l'écoute de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Lorsqu'on entend des paroles de sagesse, des paroles de sagesse que j'ai écoutées, que j'ai entendues et que je répète, qui ne sont pas ma sagesse. Ce n'est toujours pas ma sagesse. Et je sais que ma sagesse, la sagesse que j'aurai, que je pourrai acquérir et que pourra me sauver de mes conditions, c'est seulement par la pratique. Et la pratique commence par l'arrêt. Ici, maintenant. Respire par le nez, marche avec tes pieds. Et puis, si vous n'y croyez pas, vous venez de manquer le bateau. Parce que vous ne voulez même pas embarquer dedans. Et c'est pour ça que j'avais dit que la première énergie, c'est la foi et la confiance. Vous embarquez dedans, peu à peu vous allez voir. Peu à peu, votre vue va se raffiner. Peu à peu, vous verrez mieux. Et ce chemin, endless path. Il n'y a pas de fin. Et chaque pas, c'est un pas de bonheur vers une destination infinie. Ces trois choses-là, et j'aime le numéro 3, sont très importantes et c'est la base de notre pratique. Vous souvenez-vous, cette base et celle-ci résument les quatre nobles vérités et le chemin octuple. Les huit quoi? Eightfold Path en français. On parle de prajna, on parle de compréhension. Pour moi, prajna, c'est la vision. La vision qui va devenir de plus en plus juste. Mais dans le chemin octuple, on appelle cette chose-là « right view ». Cette vue juste qui provient de la concentration, qui provient de la pleine conscience. Là, on retrouve les trois learnings dans le chemin octuple. Et lorsqu'on a une vision juste, ou bien lorsqu'on a une vision qui est un peu plus juste, nos pensées sont un peu plus justes. Parce que si nous voyons les choses de travers, ce que nous pensons et ce que nous disons et ce que nous faisons provient de la justesse de notre vision. De notre vision qui provient de notre pratique de pleine conscience qui nous permet de pouvoir nous concentrer. C'est pour répondre à votre question. Lorsque vous aurez pratiqué la pleine conscience, vous aurez eu assez de facultés, de capacités améliorées à pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont par une meilleure concentration. Vous allez voir, pas en réfléchissant, mais les choses vont se révéler. Vous pourrez les voir parce que l'eau s'est éclaircie et que vous pouvez voir en travers. Et lorsque vous pouvez voir, les paroles que vous allez prononcer, les idées que vous allez avoir et les actions que vous aurez, quoi faire par exemple, vont être alimentées par cette vision juste. Ces trois, corps, parole et esprit en parfaite harmonie, j'envoie mon cœur avec le son de cette cloche, c'est la pratique de la cloche. Et c'est aussi notre karma. Karma qui veut dire action. Karma qui fait partie de la cinquième contemplation. Je suis l'héritier de mes actions. Je suis l'instigateur et l'héritier de mes propres actions, c'est-à-dire de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Pourquoi? Parce que chaque pensée que j'ai, chaque parole que j'émets et chaque action que je fais est enregistrée dans mon alaya et crée mon propre karma. J'ai une belle pensée, je viens de semer une fleur dans mon alaya. J'ai une parole pas très gentille, je viens de semer quelque chose dans mon alaya. Et c'est un truc qui nous suit toute notre vie. Et c'est un truc qui va nous poursuivre, qui va se poursuivre après notre vie. Et lorsqu'on parle de karma, lorsqu'on parle de destin, pourquoi est-ce que je suis foutu comme ça? La bonne nouvelle, c'est juste toutes nous. Par nos pensées, par nos paroles et par nos actions, nous avons créé notre propre vie et notre propre destin en cultivant ce que nous avons cultivé dans notre conscience de tréfonds. Alors c'est pour ça que le noble chemin octuple, c'est la meilleure façon de pouvoir travailler pour cultiver le jardin de notre cœur. Vous voyez comment l'enseignement de Thaï est merveilleux. Toutes ces choses-là qu'il nous a apprises, c'est cela. Les quatre nobles vérités, le chemin octuple et la conscience de tréfonds, comment la cultiver dans notre pratique de tous les jours. Ce ne sont pas des théories, c'est une expérience, c'est une intelligence, c'est une réalisation. Et cette réalisation ne peut être une réalisation que lorsqu'elle est mise en pratique. Une réalisation d'un maître que nous lisons reste des lectures et des mots. Si nous ne suivons pas son enseignement, les fruits qu'il a atteints, on ne les atteindra jamais. De la même façon que le Bouddha a atteint l'éveil, en suivant cette méthode, de la même façon mon maître a suivi ses chemins afin de pouvoir élaborer tous les enseignements qu'il nous a donnés. Nous pouvons les répéter, nous pouvons les chanter, nous pouvons les lire. Ça ne fera jamais l'effet de la pratique, c'est-à-dire walk the talk. Il en manque deux, mais ce n'est pas très important. Et le dernier, c'est moyen d'existence. Je pense que je peux arrêter et vous donner un peu de temps pour quelques questions, si vous en avez. Lorsque j'ai commencé à parler de la souffrance, on a parlé des 8 grandes souffrances. On a parlé des souffrances qui sont causées par l'impermanence. Et on n'a pas encore parlé d'un point qui est très important, qui est l'interdépendance et l'inter-être. Et avec la notion d'interdépendance et d'inter-être, on peut comprendre la notion de non-soi. Et lorsqu'on comprend la notion de non-soi, ça pourra répondre à ces questions-là, parce que dans notre concept de la réincarnation, dans notre concept de la récompense d'une vie juste, et encore au niveau primaire de récompense. Mais lorsqu'on parle de récompense, il y a discrimination et dualité. Et cet enseignement adresse cette réalité, mais adresse aussi un autre niveau de réalité qui s'appelle la réalité ultime. Il y a une dimension historique dans laquelle nous vivons, où nous sommes pris avec des injustices comme celles que vous mentionnez, et le domaine historique, et l'autre c'est ultime. Alors si on applique votre raisonnement, pourquoi est-ce que le Dalai Lama qui pratique si bien a tant de problèmes avec les Chinois? Pourquoi mon maître est en train d'être souffrant et malade? Pourquoi il ne peut pas avoir une vie éternelle? Alors la notion de souffrance, la notion de non-souffrance, la notion de bonheur, la notion de récompense, sont toutes des notions qui sont empreintes de discrimination et de dualisme. Et la réalité ultime, c'est cette réalité où ces concepts ne sont plus, et ça s'appelle le nirvana, et c'est la troisième dimension, ou la troisième clé de libération. Un moine qui est pris dans une situation injuste ne crie pas au meurtre et n'est pas fâché parce que c'est injuste. Mon maître, lorsqu'il était en Amérique, a écrit à ses élèves qui étaient pris au Vietnam pour leur enseigner de ne jamais permettre à la colère de grandir en eux, même s'ils sont écrasés, oppressés, fusillés injustement. De ne jamais laisser cette bête-là naître en eux. Et le poème, Man is not our enemy. L'homme n'est pas notre ennemi. Ils peuvent nous marcher dessus, ils peuvent nous couper le cou. Ne jamais laisser cette bête s'éveiller en nous. Alors vous voyez, c'est ça la pratique. Ce n'est pas pratiquer afin de devenir un Bill Gates ou bien réussir un examen. Et au Vietnam, plusieurs croient encore à cette chose-là. Vous faites des grandes offrandes pour pouvoir avoir des beaux résultats à l'école. Mais ce n'est pas comme ça que nous devrions comprendre le karma. Le karma, c'est ce que nous cultivons en nous qui va se manifester. Et les manifestations dans lesquelles ça se manifeste sont des choses comme, par exemple, on parle de la colère ou de la compassion ou de la justice qui sort. Okay. Merci pour la question.